Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
Place donc à ce grand dossier du Mondial du bâtiment. Comme tous les mois, nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Et vous allez le voir, ça va être un petit peu le fil conducteur de cette matinée. Nous allons voir comment réindustrialiser grâce au hors-site. Quatre invités en plateau pour en parler. Michel Veillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes CEO d'Haussabois. Alors, Haussabois, je pense que ça parle à beaucoup de ceux qui nous suivent, mais quand même, c'est toujours bien de se présenter et de rappeler votre entreprise.
Oui, Haussabois a plus de 40 ans d'existence, fait de la construction bois, d'abord des maisons individuelles, et puis depuis 20 ans, uniquement du B2B, donc à destination de promoteurs, bailleurs, collectivités, principalement dans le logement, mais également dans le scolaire et un peu dans le tertiaire et le résidentiel, dans l'hôtellerie.
Parfait. Alors évidemment, vous allez commenter dans un instant ce que vous faites concrètement. D'ailleurs, vous avez un point commun avec nos autres invités, des reprises d'usines. On va en parler évidemment concrètement dans cette table ronde. À vos côtés, Dominique Renard-Brasi, bonjour,
hein,
qui est la fondatrice d'Afleia. Donc quelques mots de la même façon pour vous présenter. Hein.
Donc Afleia, c'est une structure qui est beaucoup plus récente qu'Haussabois, puisqu'elle a été créée en 2019. Et en fait, sa mission, c'est de rendre accessible et simple le passage à l'économie circulaire dans la construction. Puis j'ai aussi une casquette associative, puisqu'on est en train de lancer l'Institut français de la construction Lean, justement pour favoriser tout ce qui est industrialisation.
Alors, vous allez voir, il y a des acteurs, on va dire, très divers et variés, ce qui prouve bien que le sujet prend de l'ampleur. Hervé Dalle, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, un directeur du développement des FH Construction Industrie. Et évidemment, là aussi, vous faites du hors-site aussi et de la préfabrication.
Alors, effectivement, je suis représentant des FH Construction Industrie, spécialiste dans la salle de bain préfabriquée, mais aussi je représente la partie industrialisée des FH Construction, puisque nous regroupons toutes les unités industrialisées au sein des FH Construction.
Et enfin, pour être avec nous aussi, Philippe Rouet, merci, un CEO cofondateur d'Iloft. Là encore, quelques mots pour vous présenter, plus récent évidemment qu'Haussabois aussi.
Alors, pas tout à fait, puisque l'entreprise existe depuis 140 ans.
Ah oui, quand même, oui, d'accord. Donc, ah oui, donc, mais en tout cas, voilà, petit écart. Bon,
petit
c'est pas
écart.
Grave.
Non, Iloft, effectivement, c'est une création d'une dizaine d'années à peu
voilà.
près maintenant.
Mm-hmm.
Donc, on fait de la construction modulaire 3D hors site bois depuis effectivement une dizaine d'années, essentiellement pour des particuliers. Et puis, on vient maintenant effectivement sur le B2B aussi.
Sur le B2B. Alors, on va en parler évidemment concrètement avec vous dans un instant, mais d'abord parler du sujet du hors-site et de la réindustrialisation. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle évidemment dans cette émission, parce qu'on sait bien que le sujet monte en puissance. D'ailleurs, il y avait un rapport qui avait été rédigé il y a plus de 2 ans, hein, facilement, par le think tank Real Estate sur la réindustrialisation et le hors-site. On va dire qu'il dormait un petit peu dans les tiroirs. Et puis, étrangement ou pas, on va dire, il est ressorti il y a quelques mois parce qu'il s'inscrit totalement dans les enjeux du plan France Relance pour montrer qu'il y a la stratégie nationale bas carbone du gouvernement, on le sait, et que finalement, réindustrialiser le hors-site, ça en fait partie, c'est une nécessité. Et ce rapport dit clairement que la France doit prendre le virage de la construction hors-site. Est-ce que vous pensez, Michel Veillon, qu'on est vraiment à un moment où, on va dire, c'est un moment charnière où là, c'est en train de basculer?
Les choses s'accélèrent. Si les vertus de l'industrialisation ou de la préfabrication sont certaines, les choses s'accélèrent, pas tant par rapport à cette dimension industrielle, mais par rapport aux contraintes et à ce qui n'est plus supporté en termes de chantier, que ce soit en termes de délai, en termes de bruit, de nuisances, de déchets, même de bilan carbone. Mmh. Et c'est sur cette contrainte-là, encouragée par l'État, les collectivités, que beaucoup de constructeurs ou d'industriels ont renforcé leur solutions. Par l'industrialisation, par d'autres sujets qu'on évoquera ensuite, qui passent bien évidemment par la maîtrise du numérique, qui passent par des investissements, qui passent par de la formation. Mais l'évolution résulte du fait que les chantiers aujourd'hui sont un vrai problème en termes de main-d'œuvre, en termes de communication et puis de toutes les nuisances que personne n'ignore.
Alors, c'est un avis, évidemment, j'imagine, que vous partagez aussi, Philippe Rouet.
Oui, bien sûr. Aller sur un chantier aujourd'hui en France, c'est compliqué.
N'hésitez pas à rapprocher votre micro pour qu'on vous entende bien. Attention.
Je disais qu'aller sur des chantiers en France aujourd'hui, dans les villes, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut s'adapter et trouver des solutions alternatives. Et la construction modulaire hors site est une des solutions, pas la seule. Mais c'est, à mon avis, la solution la plus facile à mettre en œuvre rapidement.
Hervé Dalle.
Bah, l'Aéro 2020 nous aide bien. En fin de compte, quand FH Construction a décidé, il y a effectivement 12 ans, de lancer ses propres unités d'industrialisation, ses propres produits, c'était un vrai pari. Et aujourd'hui, l'Aéro 2020 qui sort est un formidable coup de pied à tout ça pour justement faire évoluer de façon rapide et durable. Mmh. Ce n'est pas une mode. C'est-à-dire que la mode qu'on a eue, c'est une certaine année de l'industrialisation. Celle-ci, on croit vraiment que c'est la bonne. C'est-à-dire l'Aéro 2020 va nous pousser. Et effectivement, avec, grâce à Dieu, le carbone qu'on va pouvoir sauver, c'est une vraie aide.
Alors, on voit très bien le lien, et Dominique Renard-Brasi, je vais vous faire commenter, parce que là, on parle de réindustrialiser, mais ce n'est pas le faire pour le faire, ce n'est pas faire de l'industrie pour faire de l'industrie. On a très vite vu comment le sujet du carbone est très vite venu dans les échanges que vous avez commencé à avoir.
Bah, effectivement, ce qui a été mentionné, c'est que en fait, les contraintes augmentent, et c'est, la contrainte environnementale devient vraiment critique. Hein, le sujet des ressources, l'épuisement des ressources et des émissions CO2, bah, c'est un sujet absolument critique. Et les modèles actuels, en fait, arrivent mal à répondre à ça. Donc, effectivement, le levier du hors-site, et on parlera effectivement des réductions des sujets des déchets, parce que finalement, par une organisation plus industrielle, ben, on consomme moins de matière, on peut mieux organiser les flux. Là, il y a un impact direct sur les émissions de CO2 et sur la consommation de matière et sur la production de déchets. Donc, c'est forcément, en fait, une voie qu'il faut étudier pour pouvoir répondre aux défis de demain.
Voilà, c'est ce qu'on va commencer à voir un petit peu concrètement. Je pense que ça vous parle, Michel Veillon, quand on parle justement de réduire les déchets, parce que vous avez vraiment un enjeu bas carbone lié, évidemment, au sujet du bois aussi.
Absolument. Alors, avant même de réduire les déchets, comme l'a dit ma voisine, c'est d'abord réduire la consommation. Mmh. Quand on venait en solution industrielle, faite en usine, on parle de tolérance au millimètre. Quand on est sur un chantier, on est au centimètre. Et quand on empile des tolérances au centimètre sur plusieurs étages, on finit par être complètement, et tout le monde le sait, surdimensionné. Mmh. Quand on monte un mur en parpaing ou en brique, on va mettre des surépaisseurs partout pour couvrir cette dispersion qui s'accumule et qui peut devenir dangereuse. Donc on est surconsommateur, on est surémissif évidemment de carbone, alors que dans l'industrie, on va, c'est un mot technique, calpiner, on va concevoir pour qu'il n'y ait pas de chute. Si la matière première est en tant de centimètres, on va concevoir des éléments modulaires avec des dimensions qui vont faire qu'il y aura moins de déchets. Et en ce qui nous concerne, en termes de déchets, on est entre 90 et 95% de nos 10 déchets qui sont revalorisés, tout le bois repart dans les panneaux, tous les saules souples qui viennent de quel que soit le fabricant sont repris. On a une usine de saules souples à moins d'une heure, elle reprend tous les saules, toutes les chutes de saules souples s'il y en a. Évidemment, tous les produits minéraux comme le placo ou les équivalents sont repris aussi par les usines de producteurs qui sont répartis sur toute la France. Donc on est, enfin, désolé, je fais souvent le tour des poubelles chez nous et je vérifie qu'il n'y a plus que quelques emballages ou quelques résidus. Et c'est un gage et c'est une garantie de préservation et des ressources et des bilans que nous sommes amenés à produire. C'est une évidence, mais à contrario, comme me disait mon Philippe, allez sur un chantier et vous verrez les difficultés. D'abord, les déchets sont plus nombreux et les difficultés pour les récupérer propres, non souillés et revalorisables.
Bah, on voit à quel point la REP bâtiment est compliquée aussi à se mettre en place finalement autour de ces enjeux.
Mais elle est nécessaire, elle est nécessaire et tous les industriels, toutes les fédérations travaillent dessus maintenant. Mais vous voyez, elle a été reculée d'un an, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a encore un peu de travail. Mais elle est nécessaire parce qu'il restera évidemment des chantiers, il restera évidemment des emballages ou des déchets dont le flux devra être optimisé et revalorisé, mais il y a encore beaucoup de travail, c'est certain.
Alors, je crois que Dominique Renard-Brasi est prête à commenter, puis évidemment, je passerai la parole aux autres acteurs.
C'est juste pour donner un chiffre, hein, pour appuyer ce que vient de dire mon voisin. Les commandes en trop par an, c'est 1,5 milliard d'euros. Et en fait, dans les usines, en fait, ce phénomène de commandes en trop, il est beaucoup plus maîtrisé. Donc le gisement en fait, économique, il est énorme, effectivement, parce que sur les chantiers après, ces commandes en trop sont souvent souillées et non utilisables. Donc ça part à la poubelle.
Philippe Rouet ?
Oui, enfin, pour compléter, on n'achète plus pour un chantier. Enfin, c'est très banal ce que je dis, mais on achète pour une année, pour un ensemble de chantiers. Donc on a une optimisation naturelle des consommations, c'est évident, donc une consommation moindre.
Une consommation moindre. Et alors, on a commencé à parler d'usines aussi. Hein. Vous avez, c'est ce que je disais, c'est le point commun entre vous trois et vous allez en parler parce que, évidemment, quand même, il faut de la place pour tout ça, hein, quand même. Et c'est pour ça qu'on parle de réindustrialisation.
C'est peut-être le, Un des seuls problèmes qu'on a à résoudre, c'est qu'il faut de la place, effectivement. Quand on construit des logements, ben, il faut l'équivalent d'un lotissement dans une usine. Donc, c'est un des sujets qu'on a à traiter. On a eu la chance, nous, d'avoir à notre disposition, sur la Bretagne, une ancienne usine de Chaffauteau et Maury, qui était de 50 000 m² à peu près. Donc, on a pu réutiliser pour nous répandre et nous organiser. Donc, nous avons aujourd'hui participé à la revitalisation de cette friche industrielle. Voilà, et c'était une opportunité qui était très importante pour nous et qui nous a bien aidés.
Et alors, c'était facile de reconvertir, on va dire, partant d'une usine quand même de chaudières, c'est ça?
Oui, c'était des chaudières. Alors, c'était la fabrication des chaudières pour l'Europe. Et puis, c'était aussi le bureau d'études pour l'Europe. C'était Ariston qui détenait ça, qui avait racheté ça à Chaffauteau et Maury. Et on a fait l'acquisition de ce bâtiment-là il y a 3 ans. Oui, c'était assez simple, puisque c'était un greenfield qui était assez facile à redéployer. Ça n'a pas été très difficile.
Alors, c'est ce que je disais, point commun, aussi une reprise d'une usine, Hervé Dalle, hein, pour FH Construction.
Dans nos trois pôles, que ce soit HVA Concept, qui a repris un site Moulinex il y a maintenant 13 ans, où on est reparti de zéro. On parlera tout à l'heure de l'aspect sociétal, qui est important, parce que ça nous a permis, dans nos usines, justement, d'avoir du personnel féminin, notamment, chez nous, dans la construction, le personnel féminin, c'était effectivement pas la majorité, loin de là, mais on arrive à avoir nos sites, où là-dessus, on a pu refaire découvrir à des personnels féminins, nos femmes, des métiers, carreleurs, plombiers, etc., qui étaient un peu réservés, beaucoup réservés à la main-d'œuvre masculine dans nos usines. Ensuite, c'est B3, où on a repris effectivement un ancien site C3N à Rennes, et puis Moule, qu'on est en train de développer aujourd'hui via Savard, où dans lequel on a effectivement, là, et on retrouve des métiers de la construction dans une usine.
Alors, puis si on veut faire le tour aussi, vous aussi, reprise d'une usine du côté de Savoie.
Une première, il y a 12 ans, qui était une usine de grippin, qui avait été fermée, enfin... Et je crois malheureusement qu'il reste encore des sites, et fort heureusement, et le deuxième plus récemment, qui est lié un petit peu à l'évolution de Savoie. Avant, on faisait principalement des murs et des planchers. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre activité, ce sont ce qu'on appelle des modules, donc des boîtes qui demandent plus de place. Et là, on a racheté un site qui faisait des semi-remorques, donc beaucoup plus adapté en termes de dimension. On a 6 ponts roulants, des flux beaucoup plus adaptés, alors que faire des modules 3D dans une usine de charpente, c'était un peu contraignant. Voilà, c'est aussi l'évolution des produits qui a fait. Et fort, alors, je ne vais pas m'en réjouir, mais si ces sites-là n'avaient pas été disponibles, avec de la main-d'œuvre industrielle qui s'est, dans les deux cas, très facilement adaptée.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Moi, parce que c'est vrai qu'on veut dire reprendre une usine, mais si on licencie ceux qui sont là.
Admiratif. Alors, il y a eu de la formation.
Oui, bien sûr.
Dans les années de 2010, on a fait beaucoup de formations. Mais une conversion de métier du métal vers des métiers du câblage. Alors, c'est vrai qu'on on offre dans la construction un panel de métiers. Les gens sont plutôt polyvalents, mais... Quand avant, on ne faisait que de la charpente, aujourd'hui, comme l'a dit Hervé, on a des électriciens, on a des peintres, on a des carreleurs, des soliers. Et ces métiers-là, évidemment, réalisés en usine, au chaud, à l'abri, sous procédure, en tout cas, permettent d'offrir des choses à des gens qui trouvent et leur équilibre et leur épanouissement, parce qu'ils vont apprendre d'autres métiers. Et puis, en plus, faire de la polyvalence encadrée.
Alors, on en arrive à un sujet majeur, vous avez commencé à le dire, hein, c'est la formation, parce que c'est ça aussi qui permettra ce développement, cette réindustrialisation dont on parle depuis le début, Dominique Renard-Barzy.
Ah, mais effectivement, c'est un enjeu qui est absolument majeur, hein. C'est comment, effectivement, on forme à ces nouveaux métiers et puis aussi à ces nouvelles approches, parce que peut-être qu'on évoquera ce point-là. En fait, construire hors site, ça veut dire que dans toute la chaîne de valeur, il faut penser autrement, que ce soit en conception, que ce soit après sur chantier. Tous les métiers sont complètement bouleversés et ça demande effectivement un effort de formation qui est important et pour pouvoir répondre à ça.
Ça fait partie de ce que vous mettez en place, notamment avec l'Institut français de la construction Lean, dont vous aviez parlé tout à l'heure en introduction.
Ouais. Alors en fait, l'Institut français de la construction Lean, on a vocation effectivement à diffuser de la connaissance, à monter les acteurs, faire un réseau autour de ces nouvelles pratiques. Pascal Chazal aussi, avec le campus hors site, investit dans ce sujet de la formation. pour moi, c'est vraiment un enjeu qui est majeur parce qu'il y a beaucoup de transformations. Ça s'improvise. En fait, la construction hors site, ça ne s'improvise pas. Et ça bouleverse beaucoup de métiers. Je parlais de la conception, mais ça bouleverse aussi les approches commerciales, par exemple. Y a beaucoup de métiers sont touchés.
Sont touchés. Alors justement, quand on parle de formation aussi, Philippe Rouet, vous avez créé la e-Loft Academy, c'est ça ? Il y avait le Loft, il y avait la Star Academy. Vous avez fait un mix, c'est ça ?
Exactement. Alors nous, on avait une contrainte plus importante à la base, c'est que la Bretagne est au plein emploi depuis déjà 10 ans. C'est pas un scoop. On avait une tension sur l'emploi sur le territoire. Donc on a créé cette école de formation pour pourvoir à la main-d'œuvre au niveau de l'usine. Donc on forme aujourd'hui tous nos collaborateurs. Mm-hmm. On est rendu à, je crois, la dixième session de promotion, enfin la promotion effectivement de formation. Donc c'est des équipes de 15-20 personnes qu'on recrute mm-hmm. et qu'on forme. Sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble de la chaîne. Donc il y a un tronc commun initial. Et puis après, en fonction des affinités produits, on va plutôt sur la charpente, plutôt sur la couverture, plutôt sur le carrelage ou la peinture. Voilà. Et donc ça marche très bien.
Alors ça marche très bien, mais il faut former aussi. C'est un petit peu ce que disait Dominique Renard-Brasi. On est à mi-chemin entre le bâtiment et l'industrie, c'est ça ?
Ouais,
donc est-ce que c'est si simple que ça ?
Non, ce n'est pas si simple que ça. Au départ, on essayait de recruter effectivement des gens formés. Mm-hmm. Des compagnons traditionnels. Et puis quand on les met sur l'usine, 3 jours après, ils s'en vont. La réalité, c'est celle-là. Donc,
ah oui, ils s'adaptent
non,
pas du
non,
tout,
du
c'est
tout,
ça
du tout, parce mm-hmm. qu'ils ont, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois plus pour certains, appris à fonctionner sur un mode tout à fait différent, mm-hmm. sans organisation industrielle, avec un peu plus de liberté probablement mm-hmm. aussi. Et ils ne s'adaptent pas. Mm-hmm. Donc on est aujourd'hui très satisfaits de prendre des gens qui ont travaillé dans un environnement un peu posté, mm-hmm. hein, pour les former, les reformer à des métiers... qu'ils ne connaissent pas. Et voilà, donc on les forme initialement, puis après on les reforme si besoin, on les fait évoluer aussi vers d'autres métiers. Il y a tout un travail de gestion des ressources humaines autour de la formation, centré sur la formation, qui est très vertueux.
Qui est très vertueux. Alors, vous avez commencé à en parler, hein, Hervé Dalle aussi. Vous avez recruté aussi beaucoup de femmes, parce que justement, il y a une particularité aussi à ce métier-là, on va dire, si on peut dire, du hors-site, de la préfabrication.
Alors oui, sur tous nos chantiers, sur FH Construction, il y a une tradition de déplacement. C'est-à-dire mmh. que nos collègues se déplacent de chantier en chantier. Et donc, pour nous, c'est différent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une usine, on s'aperçoit que 90% rayonnent dans un rayon de 10 km autour de notre usine, et donc il a bien fallu s'adapter effectivement à former le personnel parce que les gens vont pas bouger. Donc effectivement pour nous c'est vital. On tient une petite revanche, c'est-à-dire que le management d'une usine dans les chantiers des FH Construction, on commence déjà le management par le lean, et donc l'approche industrielle là-dessus commence à déteindre sur la gestion des chantiers de construction classique, ce qui est très rassurant et ce qui est très valorisant. Et donc on arrive maintenant à avoir des formations qui vont sur les deux, à la fois sur le chantier, à la fois à l'usine. Et grâce effectivement à l'usine, le Lean permet effectivement du management intéressant.
Sur cette notion de management, vous voulez commenter aussi, Michel Veillon ?
Non, je suis assez d'accord sur le fait que on est à un virage, hein. Ouais. Il y a une vraie bascule vers, et tout le monde en parle, les maîtres d'ouvrage, les pouvoirs publics. Mais ça fait quand même quelques années que... des groupes constructeurs ou des industriels se sont mis sur ces métiers de l'industrialisation au service de la construction, et que ça a eu comme effet chez des majors de la construction d'avoir des démarches chantiers beaucoup plus, on va dire, industrielles, qui restent du chantier. Faut se reconnaître que depuis 10 ou 20 ans, les délais chantiers eux-mêmes ont fortement progressé, pas tellement en changement de technique, mais avec une organisation très structurée. Je partage ce point de vue, et on est heureux que cette culture industrielle ait amené quelque chose en termes de qualité, de délai, peut-être même de sécurité, parce que, vous savez, la sécurité dans les usines, on en parle depuis longtemps, les chantiers, c'est venu... Aujourd'hui, ils sont parfaits, les chantiers appliquent et même prennent des initiatives dans la mesure, mais l'industrialisation, le lean, est venu sur les chantiers depuis quelques années, et ce qui d'ailleurs nous oblige, nous industriels, à se dire, si on veut trouver notre place, parce qu'on y croit et parce que c'est vertueux, il faut aussi intégrer que de l'autre côté, sur les chantiers, une organisation plus industrielle est en train de se mettre en place, et qu'on va devoir compléter ou s'harmoniser et dialoguer avec eux pour construire vite, bien et mieux.
Oui, voilà, c'est exactement ce qu'il en ressort, c'est que vous ne pouvez pas évidemment faire ça aussi tout seul. La notion de partenariat aussi est importante, hein, Dominique Renard-Brasi,
oui,
dans cette démarche.
Oui, je pense que c'est une des clés de réussite du hors-site et en fait de la préfabrication. Puisque en fait, on est effectivement dans des niveaux de précision qui sont différents. On peut plus improviser, donc on doit dialoguer, on doit échanger, on doit travailler ensemble, donc dans des pratiques beaucoup plus collaboratives, parce que le secteur de la construction était traditionnellement extrêmement siloté. Et donc là, il faut échanger sur les conditions de réussite d'un chantier en préfabrication. Donc là, effectivement, les plannings, quand un module doit arriver à telle date, on ne peut pas trop le décaler, puisque ça engendre des impacts importants. Donc effectivement, c'est des pratiques collaboratives différentes entre les différents acteurs qui obligent... à mon sens, effectivement, à parler partenariat. C'est plus être dans des relations client-fournisseurs très basées sur le prix, mais avoir en fait une connaissance partagée de ce qui fait un coût et des leviers pour éviter les gaspillages et pour être beaucoup plus précis.
En fait, c'est avoir aussi une approche produit, ce qui n'est peut-être pas finalement ce qu'il y a dans le monde du bâtiment. J'ai envie de vous faire commenter les uns et les autres. Ce n'est pas simple. On a déjà parlé ici, quand on parle d'industrie, d'industrialisation pour le secteur du bâtiment, il y en a certains qui... De quoi on parle ? Moi, je suis architecte, je veux faire mon bâtiment, je ne vais pas faire de la préfabrication avant. Enfin, il y a quand même encore un petit peu de réticence dans certains cas.
En fait, vous touchez effectivement quelque chose d'important dans le sujet du hors-site et de la préfabrication. En fait, préfabriquer, on peut le faire, effectivement, on sort des éléments d'un chantier et on préfabrique, on délocalise. Mais pour aller vers des approches économiques et de masse, de massification, il faut aussi penser à la conception. Et là, ça veut dire démarrer des approches produits, qu'est-ce qui est standardisable, qu'est-ce qui est modularisable, comme les constructeurs automobiles, c'est avoir des plateformes qu'on adapte en fonction des demandes des clients. Et ça veut dire qu'il faut collaborer avec les gens qui conçoivent, qui sont proches du client. Et là les partenariats ont tout leur sens. Ouais.
Alors Hervé Dalle, en premier, a commenté à tout ça, parce que vous avez parlé d'automobile. Nous, certains disent on ne fait pas un bâtiment comme une automobile.
Effectivement, on parlait de produits. Pour nous, je pense qu'on a réglé le problème. C'est-à-dire qu'on est persuadé chez nous que le bâtiment du futur, il ne sera ni en béton, ni en bois, ni en métal, mais ça sera un hybride. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on va
prendre... C'est comme les voitures, finalement.
On va prendre un peu de chaque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'écoute de nos clients, on est bien obligé de faire des offres intégrées et des offres multiples. Parce qu'aujourd'hui, sauf certains qui vont rester dans le pur bois ou le pur béton, peu importe, c'est pas le propos. Mais en fin de compte, le mot partenariat et famille, il a jamais été aussi présent, vu mon grand âge, dans notre métier. C'est-à-dire qu'on est tous sur une vue globale du bâtiment. Puis on va bien être obligé de prendre chaque produit pour ce qu'il est et dans la meilleure des trucs. Donc voilà, il y aura du travail pour tous et il y aura surtout une évolution et le bâtiment sera effectivement un hybride. On commence beaucoup de bâtiments clafetés, enfin etc. Donc on est vraiment là-dessus. Alors une chose assez intéressante, on a très peu parlé de préfabrication, on a beaucoup parlé d'industrialisation.
Oui, parce que
le mot préfabriqué faisait peur.
C'est le titre
peur.
De...
Et le mot préfabriqué peut faire fort. Le mot industrialisé veut bien dire ce qu'il dit. Mmh. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une autre mouvance.
Sur une autre mouvance, oui. Philippe Rouet.
Oui, je voulais juste revenir sur et compléter. Le hors-site permet aussi de mieux gérer les interfaces. Mmh. Voilà. Donc, on avait sur les chantiers traditionnels une coactivité très importante entre les différents métiers, les différents lots. Je pense qu'un des apports de la construction hors-site, ça a été ça, c'est-à-dire de réguler toutes les interfaces entre les différents corps d'État. Mmh. Donc une plus grande rationalité dans l'exécution et moins de coactivité. Donc à la fois moins de partenariats, on parlait de développer les partenariats tout à l'heure, mais en même temps on les a réduits aussi. Et je pense que c'est très vertueux et c'est effectivement efficace. Voilà, et pour revenir sur l'innovation, effectivement, le secteur du bâtiment est un secteur qui n'est pas connu pour son grand appétit sur l'innovation. Donc on a parlé aussi au niveau du commerce, de la digitalisation, effectivement, de l'approche commerciale en B2C, en B2B. le hors-site permet peut-être plus facilement tout ça. Mmh.
Mais c'est ce que je disais encore, on peut sortir certaines réticences ou d'associer le mot industrialisation au bâtiment. Pour certains, c'est encore un petit peu complexe.
Je ne sais pas.
Michel Veillon, vous avez un avis sur le sujet?
Évidemment, il y a une connotation un peu préjudiciable, mais c'est parce qu'on imagine... Le début de l'automobile, c'était vous voulez une Ford T, vous la voulez noire ou vous la voulez noire. Alors qu'aujourd'hui, une automobile, vous avez une trentaine d'options et c'est complètement transparent. Ça se passe par ordinateur. Sur la même plateforme, on fait un coupé, un break, une décapotable, un monospace sur la même plateforme, c'est-à-dire sur le même châssis avec 80% des composants communs et il reste que quelques éléments de carrosserie. Et bien, dans la construction, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez vu passer quelques de nos réalisations. Je pense que l'architecture n'est pas. Il peut y avoir quelques données, à la limite quelques contraintes à prendre en compte, mais l'industrialisation permet de faire d'une part de l'architecture, d'autre part, on est dans des schémas qu'on va appeler paramétrables. C'est-à-dire que aujourd'hui, même un lotissement de 50 maisons, pour nous, c'est 50 maisons différentes. On a standardisé quelques menuiseries, on a standardisé évidemment la conception des murs et des planchers pour gagner du temps. Mais derrière, parce que celui qui va être acquéreur d'une maison dans un lotissement de 50 maisons, il veut que sa maison soit plutôt un peu différente. Alors on va l'orienter différemment, on va jouer sur évidemment les toits, dans un même lotissement, et les architectes ont tout le talent qu'il faut pour faire ça, jouer sur les revêtements. Et donc cette personnalisation, c'est ce qu'on retrouve dans les cuisines que vous pouvez acheter aujourd'hui, la même usine, mais dans l'assemblage qui est fait, on arrive à personnaliser. C'est ce que permet le BIM, c'est ce que permet le numérique, on simule avant, et on va chercher des composants ou des technologies ou des éléments de détail qu'on agrège pour finir un produit qui reste sur mesure. C'est ça la révolution.
Voilà, c'est qu'il faut oublier, il ne faut pas associer.
On n'a pas de catalogue, une personne ici n'a de catalogue. On est un minimum paramétrable quand on n'est pas pratiquement totalement sur mesure.
Dominique Renard-Brasichek, vous vouliez commenter.
C'était pour une image, j'utilise beaucoup parce qu'effectivement, ce terme de standard, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien compris, ou accepté par le monde de la construction. Moi, j'utilise souvent l'image de Mozart. Mozart, il a utilisé la gamme et le solfège, c'est des standards pour créer. Et effectivement, ce sujet de la diversité du standard, il faut le positionner là où il faut. Dans l'automobile, par exemple, les armatures étaient standards entre plusieurs partagées. Moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là, entre plusieurs voitures. Par contre, après, les tissus étaient différents, la mousse était différente et l'aspect du siège complètement différent. Donc, il faut vraiment mettre... Et c'est là où on a besoin d'intelligence économique. C'est où est-ce que, on peut travailler sur les coûts et sur des standards.
Alors là, on a parlé évidemment des standards, on a parlé globalement du sujet de la réindustrialisation. J'aimerais bien savoir aussi où est-ce que vous en êtes concrètement en termes de marché aussi, parce qu'on est là aussi pour voir ça, puisque si vous reprenez des usines, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Hervé Dalle, on est sur un bon train, comme on dirait
en
bon
français. Oui, on est sur un bon train. On voit que, comme on disait tout à l'heure, tous les acteurs s'y sont mis, c'est-à-dire pas uniquement les privés ou les publics, mais le public s'y met aussi beaucoup.
D'ailleurs, vous êtes emblématique
avec des efforts qui ont été fait. J'aurais juste passé un tout petit coup quand même là-dessus. On parlait de la conception, c'est vital. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'État relâche un petit appel, le BIM dans les marchés publics, etc., on est mort. Donc il faut garder ça. Moi, je viens de la construction navale qui vient de fêter ses 40 ans du BIM. Donc, parce qu'évidemment, un paquebot est 100% préféré, ils n'ont pas le choix. Mais aujourd'hui, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder la maquette numérique en tant que référent pour nous, parce que pour nous, c'est beaucoup plus simple là-dessus. Alors, on parlait tout à l'heure, dès la conception, effectivement, on commence à parler avec un architecte, on part de la gaine technique. Alors, au début, il nous regarde, et puis après, on a grandi. Et donc, ce sont des façons de changer. Mais c'est vital pour nous, la maquette numérique doit rester, puisque dans toutes les machines que l'on a, on récupère des datas et effectivement, dans nos machines numériques, on fabrique. C'est-à-dire que toute la chaîne intégrée depuis la conception jusqu'à la fabrication intégrer entièrement et récupère des datas de la conception d'un plan d'architecte.
Genre pour mieux comprendre le BIM, il y a des interrogations sur l'avenir,
on sent, quelques doutes. On sent un léger assouplissement, disons, là-dessus, sous des raisons assez obscures de matériel, de standards, etc. Donc, petit coup de vin, on continue le BIM, on lâche pas.
Ouais, parce qu'il y a 5-6 ans, et on en a déjà parlé, on a fait toute une thématique, on a l'impression que c'était le BIM, on en mettait partout.
Voilà, hein, et puis, on sent que là, dernièrement, pour des raisons, je vous dis, voilà, on commence à sentir un petit coup de mou. Alors, de grâce, gardons la maquette numérique, c'est notre avenir.
Philippe Rouet.
Je partage. Donc, la digitalisation a été au cœur de notre stratégie dès le début. Juste pour compléter encore ce qu'il disait tout à l'heure, il y a deux mots là qui s'opposent un petit peu, c'est standardisation et personnalisation. Je pense qu'en réalité, ils ne sont pas si opposés que ça. Donc, on offre des choix à nos clients, d'autant plus facilement qu'on a conçu quelque chose de relativement solide et de pertinent. Donc, nous, ce qu'on a fait rapidement, c'est offrir effectivement 9-10 modèles de maisons à nos clients particuliers. Particulier pour le coup, et ils pouvaient directement sur le site internet iloft.fr customiser leur maison jusqu'au budget, jusqu'au centime d'euro correspondant à leur budget. Et c'est déterminant. On a simplifié, ce faisant, le process d'achat. C'est compliqué de construire quand on est non sachant et de maîtriser l'ensemble de son projet, y compris l'aspect financier qui est déterminant. Voilà. Et le BIM, effectivement, la digitalisation du procédé sur l'ensemble de la chaîne permet d'aller vers ça. Et donc, on l'a fait sur le particulier avec un certain succès et on essaye de le développer aussi sur le B2B. C'est plus difficile parce qu'il y a plus de contraintes, il y a plus de partenaires, il y a plus d'acteurs. Mais je pense que c'est la voie.
Alors, puisque je parlais de marché porteur aussi, vous allez ouvrir une deuxième usine
Alors c'est un scoop pour vous ce matin. On va ouvrir une deuxième usine dans le nord de la France, à côté de Valenciennes, à Olchain, à la frontière franco-belge, puisque faire entrer un acteur ETEX franco-belge, pour le coup, au capital de l'entreprise. Donc, on va ouvrir une deuxième usine, effectivement, dans le nord de la France, pour le marché Paris et Hauts-de-France.
Alors, Michel Veillon aussi, j'imagine, marché porteur pour vous.
Marché porteur et, en ce qui nous concerne, marché porteur, en tout cas pour la partie industrielle. C'est-à-dire, on va probablement de moins en moins sur chantier, alors qu'avant, on était un petit peu obligé de mettre le doigt dans les chantiers pour faire valoir notre savoir-faire industriel, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt développé toute la partie industrielle, c'est-à-dire qu'avant, on faisait des murs, des planchers, aujourd'hui, on fait des ensembles complets, qui peuvent être des salles de cours, qui peuvent être des chambres d'EHPAD, des chambres d'hôpitaux. Cette tendance-là fait que les volumes, en tout cas, pour la partie industrielle, évidemment, augmentent, d'accord, même si on va nous voir peut-être un peu moins sur chantier, mais c'est tant mieux pour nous.
Alors, si je vous écoute bien, il y a encore un réel potentiel, parce qu'on parle de réindustrialiser aujourd'hui. Il y a d'autres usines ailleurs en France, j'allais dire, que vous pourriez reprendre de la même façon
un parc de friches industrielles, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Il faut bien comprendre que ce n'est pas non plus la course à avoir des implantations partout, enfin en tout cas en ce qui nous concerne, parce que quand on transporte un produit qui a beaucoup de valeur ajoutée, et une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôpital, elle a tellement de valeur ajoutée que finalement la part transport, même pour faire entre 500 et 1000 km, c'est 4% du prix. Donc c'est pas l'enjeu transport. Alors, l'enjeu transport est important quand vous transportez quelque chose qui vaut rien, qui s'appelle des parpaings ou de la brique. Mais quand vous transportez un produit à valeur ajoutée, c'est pas le transport. Donc il vaut mieux avoir une usine avec, pas très loin évidemment, son bureau d'études, avec des outils adaptés et en sécurité. Et puis surtout, quelque chose que je souhaiterais rajouter, c'est autour de ces usines, il y a tout un écosystème. En fait, on est plus des entreprises de process. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas non plus que nos constructions consistent à ramener en usine l'équivalent d'un chantier. Je ne veux pas transformer nos usines en la somme de X chantiers, un chantier par chambre ou un chantier par salle de cours. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est plutôt d'évoluer vers non pas vers du process, mais vers de l'assemblage. Et aujourd'hui, nous intégrons. Alors évidemment, on fait souvent la structure qui est en bois ou même, comme l'a dit Hervé, en bois, en béton ou en métal, le meilleur matériau selon les besoins. Mais nous ramenons des sous-ensembles faits par des partenaires. Alors il y en a qui sont spécialistes, par exemple, de certains types de salles de bain préfabriquées qu'on vient intégrer. D'autres sont des spécialistes d'un kit avec sa pompe à chaleur, sa chaudière. Et puis un autre va être le spécialiste de tout le câblage et il va amener un petit boîtier avec tous les départs pour... le Wi-Fi, la télévision, les câbles électriques. Et donc, on devient un peu assembleur. Et ça sous-entend que autour de nos usines et en partenariat, nous avons aussi tout ce réseau-là pour faire marcher. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop multiplier. Il faut avoir cet écosystème qui est fondamental pour bien réussir l'industrialisation.
Et puis, dites-moi, on ne pourra peut-être pas tout faire non plus en hors-site.
Ah, on ne peut pas tout faire, évidemment. On ne peut pas tout faire. Plus exactement, on ne peut pas tout faire, en ce qui nous concerne, avec des modulaires, du module 3D. Donc, à un moment, le bon niveau de hors-site, c'est un mur, un plancher. Surtout quand vous avez des formes un peu triangulaires, par exemple, ou des choses un peu complexes, ou des grandes portées. Mais on peut toujours quand même se poser la question d'avoir un petit sous-ensemble, et même si ce n'est qu'une poutre avec quelques fonctions complémentaires, où on a déjà pré-câblé des choses, ou déjà réglé des histoires de décor, ou de protection contre le feu. Ce qui compte, c'est d'agréger sous contrôle qualité, et en sécurité, plusieurs corps d'État, plusieurs fonctions. Ça, c'est du hors-site. Et soit on le fait au niveau minimum, et c'est toujours ça de prix, soit on le fait de manière beaucoup plus aboutie. Et là, c'est totalement vertueux. Et puis, il faut doser entre les deux. Il n'y a pas de forme unique de faire progresser la construction.
Alors, j'ai envie de vous dire comment vous le voyez, cet avenir, on va dire, alors, du hors-site, de la réindustrialisation. Dans ce fameux rapport dont je parlais, hein, de Real Estate, qui faisait des propositions pour le développement de la construction industrialisée en France, notamment relever le juste coût de la construction, encourager l'innovation industrielle, hein, vous l'avez évoqué, améliorer aussi l'accès à la commande publique. Donc, on en parlait entre les lignes, et aussi structurer la filière de formation initiale et continue. Quels seraient les axes, selon vous, qui seraient à développer pour l'avenir, Philippe Rouet?
On en a déjà parlé. Pour moi, l'emploi est au cœur de tout ça. On sait très bien que d'autres industries vont perdre massivement l'automobile, en particulier de l'emploi ces prochaines années. Donc, l'emploi est au cœur de la stratégie. Et on parlait de formation initiale. On sait très bien que dans le bâtiment, c'est des métiers qui n'attirent pas, qui n'attirent plus, qui attirent moins, en tout cas.
On va le voir encore, parce qu'on va parler de métiers d'avenir. J'imagine, et de maçonnerie. Ouais. Et on va voir que c'est compliqué.
Et le défi à relever, c'est celui du maintien de la qualité aussi. Il faut qu'on livre des produits, des chefs-d'œuvre à chaque fois, des produits qui sont parfaits. Donc, qualité passe par la formation et la reformation. Pour moi, c'est stratégique. Tout ce qui doit aider à redéployer des personnels, des acteurs sur cette filière-là est à favoriser.
Hervé Dall ?
On n'aura pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que la moindre erreur de l'industriel via qui va arriver sur le bâtiment sera beaucoup plus durement touchée que les systèmes. Parce qu'il y a une attente, effectivement. Il y a des gens qui nous regardent d'une façon, même dans un intérieur, d'une façon là-dessus. Et je rejoins là. C'est-à-dire que la qualité sera notre sauvegarde. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur.
Et, donc, et la qualité, d'ailleurs, c'est ce que vous mettez en avant quand on parle de ces sujets-là. On dit on apporte de la qualité. Hein, vous le dites, tous les acteurs.
Je ne veux pas dire que mes collègues font des produits ou des salles de bain qui ne sont pas de qualité en traditionnel. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est que nous, on fabrique des clones. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours le cas. Sur un bâtiment, on n'a pas forcément effectivement les mêmes tolérances. On parlait de dimensions. Il y en a qui sont encore en centimètres. Nous, évidemment, ça n'existe pas. Il y a le millimètre qui est... Et donc, on, dans un bâtiment qui, effectivement, n'est pas avec des tolérances qui sont effectivement beaucoup plus lâches, c'est très compliqué. Voilà. Donc, nous, l'industrialisation permet effectivement d'avoir une qualité constante et dont la formation et dont le contrôle. Nous n'aurons pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que rapidement, cette vague qui arrive, il faut tenir bon. Parce que la moindre erreur va coûter cher. Donc gardons cette qualité et effectivement une puissance des entreprises est importante. On le voyait bien, c'est qu'aujourd'hui nos maîtres d'œuvre, nos maîtres d'ouvrage demandent effectivement à nous tous des garanties financières, etc. parce que les enjeux sont grands.
Michel Veillon, puis je ferai conclure Dominique Renard-Brasi.
Alors moi, du fameux rapport, j'ai surtout retenu que il y avait une demande d'exemplarité de la commande publique et puis aussi une des évolutions culturelles très fortes parce qu'il y a un préalable à tout ça. C'est le travail en amont. Donc le travail en amont sous-entend que le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte mais aussi les bureaux d'études, soient main dans la main assez tôt avec le constructeur ou avec les industriels, parce que si on sépare tout le monde, il y a une conception d'un côté et puis la commande publique aujourd'hui, c'est quelqu'un a conçu et puis après consulte, c'est même pratiquement la règle, en lots séparés. Mmh. Et donc, les lots séparés, c'est 15 lots, la structure, l'isolant, l'étanchéité, la menuiserie, le câblage, etc. Alors que forcément, l'industrialisation agrège ces lots. Donc, il y a une évolution culturelle, mais surtout une évolution réglementaire. Certes, on peut faire ce qu'on appelle des conceptions-réalisations, mais c'est normalement limité à l'innovation ou à des contraintes de performance. Le premier point. Et puis, je pense que même d'une manière générale, cette approche en anticipant, on va aller beaucoup plus vite sur le chantier, mais il y a un préalable, c'est qu'on ait un peu dépensé un peu plus, dépensé un peu plus de temps ou pris un peu plus de risques en amont. Mmh. En tout cas, sur le papier, dans les études. Mais comme le BIM permet de simuler, on limite le risque. Et pour ma part, j'ai jamais vu de simulation. Vous savez, aujourd'hui, on simule l'automobile, on simule un Airbus, et il vole, et il décolle. Mmh. Et ce qui concerne la construction, mais pratiquement le même niveau, ce qui se simule se réalise ensuite. Donc voilà, l'essentiel, c'est anticiper, faire travailler en amont, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeur industriel, dans des accords, des conventions à trouver, des partenariats, étape par étape. Et c'est une clé, encore une fois, que le législateur doit encourager et que culturellement, nous devons tous défendre, parce que sinon, ça va rester quand même un peu compliqué.
Un peu compliqué, oui. Dominique Renard-Brasi.
En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cet enjeu d'industrialisation, c'est vraiment on a un enjeu derrière d'accélération de la transformation, et c'est un levier extraordinaire pour permettre d'accélérer. Alors, le sujet environnemental, c'est construire moins, plus avec moins de matière. Y a aussi
et construire
le sujet
mieux, surtout, aussi.
Mieux et plus avec moins de matière. Il y a le sujet, parce qu'on a beaucoup évoqué le sujet du neuf, mais la rénovation aussi passera. On parle beaucoup de massification, et là, on n'est pas du tout encore aux enjeux, aux objectifs. Hein, et ça passera par de l'industrialisation. Donc, de toute façon, on va y aller. Donc, il n'y a pas 36 leviers, et celui-là, c'est un formidable levier. Donc, la formation, ça passera par la formation. La digitalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, sans données, comment industrialiser si on n'a pas de la donnée, quoi. Et puis, les partenariats. Donc, c'est les trois leviers qui permettront d'accélérer, à mon sens.
Eh ben, en tout cas, le message est passé. On est là aussi dans cette émission pour en parler, pour valoriser ce sujet de la réindustrialisation. Merci à tous les quatre d'être intervenus. Dominique Renard-Brasi, fondatrice d'Afleia, Michel Veillon, CEO de Savoie, Philippe Rouet, CEO cofondateur d'Iloft, et Hervé Dalle, directeur du développement des fâches construction industrie. On va marquer une courte pause et dans un instant, on retrouvera la séquence Grand Témoin.